Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une expérience immersive et multisensorielle. Partons flâner dans l'exposition intitulée « Aquamateur » dédiée à l'eau, actuellement visible sur le parvis de la Défense. Nous déambulerons dans un pavillon dont l'architecture atypique et envoûtante nous entraînera en Amazonie où pousse le bambou géant, le guadua. Au fil des photos de Sebastião Salgado, exposées là dans un format monumental, nous voyagerons aux confins du monde. Partons flâner les yeux fermés avec le photographe humaniste franco-brésilien Sebastião Salgado et le duo d'architectes Stéphane Assimic et Simon Vélez. Nous sommes sur le parvis de la Défense, où tout n'est que verticalité, béton, verre. Un ovni semble s'être posé là, au pied de la Grande Arche. Une structure exotique, dépaysante. Une architecture végétarienne, comme la qualifie l'un de ses auteurs, Simon Vélez. Nous sommes devant un bâtiment en matériaux naturels, tout en longueur, tout en courbe. Un bel ovale de 60 mètres de long sur 16 mètres de large. Son toit à double pente s'élève à 10 mètres de haut. La grande arche en mesure 111. La structure se nomme Contemplation. Il s'agit de sa deuxième apparition. En 2018, elle accueillait en Arles la 49e édition des Rencontres de la photographie. C'est une structure démontable et remontable. Elle voyagera dans le monde. Contemplation illustre à quel point il est extraordinaire de travailler avec la nature, dit son architecte Simon Vélez. Cet architecte colombien a eu la révélation du bambou au début de sa carrière, dans les années 1980. De l'extérieur, nous sommes frappés par son harmonie colorée. L'ocre jaune des piliers de bambou, la couleur paille de la toiture faite de paillons de roseau posés sur une membrane imperméable, se détache sur les toiles brunes qui, ici à la Défense, viennent fermer l'édifice. Ces toiles sont comme l'ombre de cette toiture massive, monumentale, très saillante. « Je suis un architecte des toits », dit Simon de Vélez. Au long de son œuvre, il réalise un paradoxe que beaucoup ont souhaité accomplir, construire des édifices en commençant par leur toit. Tout comme le pavillon suisse à l'exposition universelle de Hanovre en 2000, ce projet a commencé par un dessin réalisé à main levée sur un cahier A4 à petits carreaux avec un bic 4 couleurs. Le code couleur est bien connu des chefs de chantier. Nous faisons maintenant le tour de cet édifice qui ressemble un peu à une coque de bateau renversée. Nous faisons le tour de cet ovale gigantesque pour trouver l'entrée. Elle se trouve côté Grande Arche. Nous franchissons le seuil. Immédiatement, nous sommes saisis par l'air qui circule. On le sent. On l'entend. Sa vibration se mêle à d'autres sons que nous évoquerons plus avant. Pour l'instant, profitons de l'émotion que nous procure cette architecture, ce temple de bambou. Nous pénétrons dans 1000 mètres carrés de sérénité qui incite au recueillement, mais aussi à la découverte. Cet édifice contemplation trouve son origine dans un concept ancestral. Simon Vélez en parle ainsi. Nous étions inspirés et guidés par notre fascination pour les grandes malokas de nos ancêtres indigènes. Dans les pentes de la jungle sauvage de l'Orénoque et de l'Amazone, ces malokas existent toujours. Elles sont le lieu de vie de toute la communauté. Il n'y a jamais eu de cité aussi minimaliste que la Maloka sur Terre. Ces bâtiments sont la manifestation consciente qui vivent des êtres humains et non des animaux sauvages. Car au cœur de la Maloka, il y a l'ordre, les normes, les proportions géométriques, la cosmologie et l'astronomie. Par-dessus tout, il y a la spiritualité. Elles sont des espaces mystiques. La Maloka amérindienne a le toit fait en feuilles de palmier. Les seuls meubles y sont des hamacs. La Maloka amérindienne représente le lien avec l'environnement. Elle est considérée comme sacrée par ses habitants. Nature et spiritualité sont au cœur de ces Malokas et ici, un sentiment analogue nous envahit. Nous marchons sur des lattes de bambou, l'air est frais, la lumière tamisée vient souligner avec douceur les structures architecturales. Nous sommes dans la coursive qui fait le tour de l'édifice et de par sa forme ovale, elle semble ne jamais finir. Nous déambulons sur un long chemin, fermé à droite par l'étoile brune que nous avons évoquée, et rythmé à gauche par des couples de bambous inclinés qui soutiennent une paroi en canis de bambou, elle aussi. Ces couples de bambous viennent rejoindre la charpente, elle aussi de bambou. Au sol, ils sont rigoureusement espacés et prennent appui sur des espaces rectangulaires couverts de petites pierres noires. Nous sentons l'air qui circule sur notre visage. L'atmosphère est tranquille. Zen, dirions-nous aujourd'hui. Nous flânons. Nous sommes hors du monde, dans un univers qui peut nous paraître étranger, mais qui nous accueille avec bienveillance, qui nous fait plonger au cœur de la nature, au cœur d'une nature travaillée par l'homme avec respect. La matérialité presque brute incite à la rêverie. Au fil des pas, nous entrons progressivement en symbiose avec ce bâtiment où la beauté est réduite à l'essentiel. La marche, dans ce passage qui fait le tour de l'édifice, est comme un parcours initiatique. Elle nous permet de faire le vide avec le monde extérieur. Nous sommes transportés loin de la ville. Au fil des pas, nous en apprenons plus sur ce pavillon, sur son squelette, sur le guadois. Nous découvrons à quel point ce bambou, longtemps stigmatisé par les architectes, perçu et qualifié comme le matériau des pauvres, est en fait extraordinaire, et ce, à plusieurs égards. Intéressons-nous à ce matériau. Voyageons avec lui sous les tropiques. Plus résistant que l'acier, il pousse plus vite que n'importe quel arbre. Le bambou, ou plutôt les 50 genres de bambou, eux-mêmes subdivisés en 1000 espèces, poussent sur tous les continents sauf l'Europe. Ils poussent sous les tropiques, entre le 51e degré de latitude nord et le 47e degré de latitude sud. Ils poussent là où le jour et la nuit sont dans une équivalence perpétuelle, là où le soleil a une incidence constante sur la Terre, là où il n'y a pas de saison, ou plutôt, là où les saisons s'étagent en fonction de l'altitude, là où la végétation croît à profusion, là où la biodiversité s'exprime dans un foisonnement extraordinaire. Les 30 espèces de bambou guadois poussent entre le Mexique et le nord de l'Argentine, entre le niveau de la mer et 2600 mètres d'altitude, et notamment en Colombie, sur la côte pacifique. Il tient son nom du botaniste Carl Sigismund Kunz, qui l'a nommé guadois angustifolia en 1822. Guadua signifiant « petite feuille » en langue locale. Son diamètre moyen mesure environ 14 cm. En 6 mois, il peut s'élever de 15 à 30 mètres. Sa poussée est rapide et vertigineuse. Il atteint sa maturité au bout de 4 à 5 ans. Sa partie exploitable est alors une tige de 9 mètres de long. Il nécessite beaucoup moins d'espace et de nutriments que les arbres. Le guadua provient de la région la plus humide de la planète. Et pourtant, il a besoin de très peu d'eau pour croître dans des proportions impressionnantes. Il pousse en terrain instable et ses rhizomes participent à leur stabilisation. Sa capacité à absorber le CO2 est incomparable. Sa capacité à produire de l'O2 également. Il favorise la biodiversité. Imaginez, 48 espèces d'oiseaux, 20 mammifères et 7 reptiles lui sont associés. Bref, c'est la panacée. Une ressource forestière renouvelable et abondante, qui ouvre de nouvelles possibilités de construction et d'architecture, et qui offre une grande rapidité de production et d'assemblage. Ici, grâce à une équipe hautement qualifiée, où chacun est fier de mettre en œuvre son savoir-faire, l'édifice pousse en un temps record. Le chantier, mené à bien par les équipes de Vinci, dure 8 semaines, de fin janvier à fin mars. Le principe de son montage repose sur un système inédit d'assemblage des tiges. Chaque bambou est accroché à la structure métallique avec une tige filetée et un écrou. Tous les éléments sont numérotés et ont un code couleur. Ce jeu de construction géant est un véritable sport d'équipe. Une équipe qui réunit ici 12 compagnons pour la construction, 6 pour les échafaudages et autant pour la couverture. Tous engagés dans un travail très nouveau pour eux. Ici, le squelette de notre édifice compte 2120 bambous qui mesurent entre 3 et 10 mètres de long. 7 km, 20 tonnes de bambou, dont les performances sont magnifiées grâce à des matériaux industriels élémentaires, comme les tiges filetées, des rondelles en fonte d'aluminium, des tenseurs et des tubes d'acier. Simone Vélez promeut le bambou guadua à l'échelle internationale, non seulement pour ses hautes performances et ses qualités environnementales, mais aussi pour ses qualités esthétiques. Il dit « Lorsque je voyage à travers le monde, je vois que toutes les constructions antérieures à l'apparition du béton armé, peu importe qu'elles fussent pauvres ou fastueuses, sont belles. » Vous imaginez le contraste créé par cet édifice posé là, au cœur de la Défense. Toutes ces considérations nous ont fait parcourir la moitié de la coursive. Nous la quittons pour franchir un deuxième seuil. Nous pénétrons dans la grande halle centrale, dans un espace ovale immense. Nous entrons au cœur de l'édifice. Le bambou est toujours omniprésent. Nous découvrons maintenant la charpente, qui elle s'inspire des fermes de charpente de l'architecture coloniale espagnole. Les chevrons, bambous de plus de 5 mètres de haut, s'élèvent dans un mouvement oblique et ascensionnel vers le faîtage. Le volume peut nous faire penser à celui d'une nef de cathédrale. Nous sommes comme dans un temple de sérénité. Au sol, toujours le parquet de bambou, délimitant au pied de la paroi de canis des espaces remplis de petites pierres noires, nous sommes dans la continuité du corridor que nous avons parcouru pour pénétrer dans cet espace grandiose où domine la gamme chromatique ocre, lumineuse et chaleureuse du bambou. Nous pourrions nous perdre à essayer de dénombrer cette multitude de bambous disposés dans une géométrie parfaite. Nous pourrions nous perdre à examiner les assemblages, à suivre les accidents du matériau naturel. Mais nous allons maintenant entrer dans l'univers du photographe Sebastião Salgado, dont les photos sont exposées dans cet écrin de nature tout au long de cet ovale infini. Ici, Lélia Wanik Salgado, l'épouse de Sebastião Salgado, entre en scène. Lélia a une présence capitale dans l'œuvre du photographe. C'est elle la scénographe de toutes ses expositions, la réalisatrice de tous ses livres. Elle sait raconter les histoires, dit-il. Et ici encore, elle est à l'œuvre. Sebastião Salgado décrit ainsi le travail de son épouse. C'est elle qui a créé les séquences pour aborder les différents aspects. Le manque ou l'abondance, la pêche, les nuages. Elle a choisi la taille des tirages, l'éclairage. C'est finalement un travail d'équipe parce qu'on est quatre pour raconter cette histoire. Simone Vélez, l'architecte, François-Bernard Mache, le musicien, Lélia, la scénographe, et moi, le photographe. Il ajoute « Je considère cette exposition comme un manifeste pour la planète, comme un petit grain de sable qui, j'espère, conscientisera des gens vis-à-vis de l'importance de l'eau sur Terre. » Partons donc à la découverte de quelques-unes de ces 42 photos en noir et blanc, de grande dimension, toutes dans un format horizontal, un format paysage, sauf l'une d'entre elles. Je vais m'y arrêter un tout petit instant. Il s'agit de la proue d'un navire qui nous impressionne et nous accable par sa verticalité. En partie haute, elle sort du cadre. En partie basse, elle repose sur le sol et se reflète à gauche comme une flaque d'eau qui semble dérisoire. Ce navire porte le nom de Podromos. Au loin, à sa droite, trois hommes, minuscules. Avec la perspective, ils ne sont pas plus hauts que les maillons des deux chaînes d'ancre qui viennent vers nous, traçant deux lignes parallèles légèrement obliques vers la droite. Nous éprouvons une sensation de malaise. Ce navire, cette épave échouée ici, inquiète. Nous sommes à Chittagong, au Bangladesh, en 1989. Cette ville, ce premier port du pays, est devenue le plus grand cimetière des bateaux du monde. À marée haute, ceux-ci sont propulsés à grande vitesse et viennent s'ancrer profondément sur le littoral. Sebastião nous livre l'histoire du devenir de cette épave. Cette photographie, prise sur une plage du Bangladesh, montre la fin de parcours d'un bateau qui, après avoir navigué dans les mers du monde entier, est devenu obsolète. Emmené à marée haute, il échoue ici, cloué dans le sable. Il va être découpé morceau par morceau, complètement désossé. Et les matières qui le constituent vont être recyclées, car au Bangladesh, il n'y a pas d'acier. Cela va durer des mois. Finalement, ce bateau va devenir ce qu'il transportait auparavant. Des outils agricoles, des fourchettes ou des couteaux. Quant au bronze de son hélice, il sera utilisé pour faire des théières, des bijoux. Ce chantier de Chittagong est aujourd'hui dénoncé pour ses conséquences humaines et écologiques. Mais reprenons notre déambulation, marchons un peu pour entrer maintenant en pleine nature. Nous tombons en arrêt devant un jaguar. Il apparaît face à nous, au milieu d'une végétation luxuriante. Il vient s'abreuver. La berge doit être légèrement inclinée car son corps et sa tête forment une ligne verticale qui vient fendre la flore. Il est parfaitement centré sur l'image. Nous nous égarons un moment dans le motif de son pelage tacheté. Ses ocelles sont très contrastées, d'un noir profond, sur un corps baigné de lumière, presque blanc. L'animal est comme noyé dans la profusion et la diversité des plantes qui l'entourent. Chaque feuille semble sortir de l'ombre. Bambous, feuillus, graminées se côtoient. Chacun a une présence forte. Ce mur végétal touffu prend naissance sur la berge d'une onde paisible. Une onde à la surface irisée par les reflets de la lumière. Là aussi, nous pouvons nous perdre dans les infinies nuances de gris. Mais très vite, nous sommes rappelés par le regard du jaguar. Il nous fixe, nous observe, nous pénètre. Nous sommes fascinés, hypnotisés, immobilisés par la puissance de ce regard. Il lève ses pupilles vers nous. Elles sont presque réduites à un point sous ses paupières supérieures. Le coin de ses yeux est souligné par un cerne noir. Son museau est à quelques centimètres de la surface de l'eau qui nous sépare de lui. L'instant est figé, le silence s'installe. La beauté du félin est captivante. Nous partageons ce moment essentiel pour lui, son rapport à l'eau, l'eau source de vie. La composition parfaitement rigoureuse illustre avec force le savoir-faire du photographe qui a su saisir le moment, le 1/250e de seconde qui nous transporte dans ce face-à-face, qui nous conduit au cœur du parc national Encontro das Águas, dans le Pantanal, au Brésil. Le Pantanal, la plus vaste zone humide du monde. L'un des derniers bastions du plus puissant des félidés, du dieu jaguar. Ce jaguar, dont le nom scientifique est Panthera onca. Ce jaguar, doué d'un art du camouflage inégalé, capable de chasser en terre ferme, en milieu aquatique ou encore dans les arbres. Ce jaguar qui, depuis des siècles, hante les forêts tropicales et denses d'Amérique latine. Cet animal sacré qui, depuis des millénaires, y est révéré. Ce symbole de force et de pouvoir suprême qui trône au sommet de la myriade d'esprits qui peuplent lacs et rivières d'Amazonie. Ce jaguar a perdu aujourd'hui la moitié de son territoire originel, ce prodigieux écosystème qui abrite quelques 80 000 espèces de plantes. Cette photo date de 2011. J'ai choisi de l'évoquer aujourd'hui car elle est aussi l'occasion de mettre un coup de projecteur sur un moment capital de la vie de Sebastião Salgado et sur son rapport à la nature. Sebastião Salgado est né au Brésil en 1944. Après le coup d'État de 1964, il doit quitter son pays avec sa femme Lélia. Ils arrivent en France. Au début des années 1970, il prépare un doctorat d'économie. Au début des années 70, il découvre la photographie avec un grand enthousiasme. Quelques années plus tard, son travail à Londres pour l'Organisation mondiale du café le conduit à voyager en Afrique. Il franchit le pas et décide de devenir photographe. Très vite, ses photos traitent de la question environnementale, du thème des migrations, de l'exode, de la famine, de l'esclavage moderne. Il travaille pour les agences Sigma, Gamma et Magnum, puis fonde sa propre agence, Amazonas Images, la plus petite du monde puisqu'elle ne compte qu'un photographe, lui-même. Environ 20 ans plus tard, à la fin des années 1990, il raconte: la violence que j'ai vue en ex-Yougoslavie m'a terrifiée, au point de ressentir de la honte de faire partie de l'espèce humaine. Le génocide au Rwanda et une barbarie semblable observée dans la périphérie de Mexico, à Sao Paulo, à Rio ou à Manille, m'ont atteint dans ma chair. Je suis tombée malade. Pourtant, d'un point de vue médical, tout allait bien. j'ai décidé d'abandonner la photo. Avec sa femme Lélia, ils retournent au Brésil et reprennent la ferme de ses parents. Quand ils arrivent sur place, le sol est érodé, la forêt a disparu. Les ruisseaux n'existent plus. La terre est détruite. Il dit « La terre était aussi morte que moi j'étais mort. » Il raconte « Avec Lélia, on a eu l'idée de planter une forêt. Et peu à peu, grâce aux arbres, aujourd'hui ils se comptent en millions, la vie est revenue. Les fourmis, les termites, les insectes, les oiseaux. On a fait un paradis. Et je me suis dit que tout n'était pas perdu, qu'on pouvait refaire la planète. Cela m'a ramené à la vie et j'ai eu de nouveau envie de photographier. Un paradis qui ne s'est pas fait en un jour. Un parc national de 850 hectares, la plus grande pépinière mondiale. 3 millions d'arbres, d'espèces natives, sont plantés. Les pionniers. Les pionniers, ces arbres qui grandissent vite, donnent de l'azote, de l'humidité. Ces arbres qui ramènent la biodiversité. Et puis, il a fallu planter les arbres secondaires, les secondaires tardifs. Et enfin, aujourd'hui, 25 ans après, le temps est venu pour planter encore 1 million d'arbres de plus. Les climax. Ces arbres qui ont besoin de l'ombre, de la richesse du sol. Ces arbres qui sont là pour 1000 ou 1500 ans, ces arbres qui sont là pour toujours, ces arbres qui atteindront 40 à 50 mètres de haut. Tel est l'accomplissement de l'organisation non gouvernementale fondée par Lélia et Sebastião Salgado, nommée l'Instituto Terra. Revenons à Sebastião Salgado et à sa photographie. Ce rapport fort à la nature, cette symbiose, cette communion, Sebastião Salgado les vit intensément à chaque prise de vue. En parlant des lions, puis des arbres, il affirme « Toutes les espèces sont profondément rationnelles dans leur propre espèce. Il faut comprendre le système logique des lions pour avoir l'autorisation de les photographier. Les arbres, c'est la même chose. » Cette démarche, cette recherche, s'applique complètement ici, dans cette photographie de jaguar que nous venons d'évoquer, et dans beaucoup d'autres œuvres exposées ici, dans ce temple de bambou. Quittons maintenant l'Amazonie et poursuivons notre route au long de cet ovale qui nous entraîne aux confins du monde. Des sons rythment notre flânerie et nous immergent. Certains nous confortent dans cette symbiose, cette fusion avec la nature. Tour à tour se font entendre pluie, orage, ruissellement, ressac de la mer, gouttes qui résonnent dans une grotte. Tous ces sons, nous les devons au compositeur François-Bernard Mach, qui fusionne écriture instrumentale sur synthétiseur et sons enregistrés. Il nous en dit plus sur ses sons et sur son rapport à la nature, qui pour lui aussi est très particulier. Ma sonothèque est riche de bruits d'eau, qui ont tous une histoire et ont été enregistrés dans le monde entier. Les bruits de la mer, de la pluie, des baleines, mais aussi des bruits insolites que j'ai moi-même créés en manipulant l'eau de mon bain, par exemple. J'aime exploiter les sons-bruits de la nature, mais aussi éveiller cette nature pour aller jusqu'au bout de sa nature propre. Ces sons nous accompagnent donc dans notre déambulation. Le compositeur travaille avec un grand respect et une grande admiration pour Sebastião Salgado. Pour mieux comprendre l'esprit dans lequel il a écrit ces 40 minutes de rythme de l'eau, je vous livre ici quelques mots de plus de son compositeur. L'idée n'est pas que l'atmosphère sonore soit intrusive ou qu'elle donne des illustrations des photographies de Sebastião Salgado, mais au contraire, qu'elle permette une discrète préparation aux émotions du spectateur. Pour moi, la musique doit être la voix naturelle de l'image. Nous quittons maintenant l'Amazone, sa végétation luxuriante, le regard du jaguar. Nous poursuivons notre chemin le long de cet ovale de bambou et de sérénité. Nous suivons le rythme de l'eau. Et cette fois, ce sont les regards d'un groupe d'hommes qui nous figent et nous saisissent. Des hommes nombreux réunis sur une embarcation, une chaloupe. Celui du premier plan est monumental. Il est debout, on le voit à mi-corps, il est face à nous. Son regard est perdu au loin. Ses yeux brillent. Sur son t-shirt blanc, il porte une sorte de tablier noir en plastique qui semble avoir été découpé à la hâte. Il est coiffé d'un bonnet plat, blanc, traditionnel, en tissu léger. Un bonnet qui souligne les rides de son visage, profondément marquées, et qui répond à la blancheur de sa barbe, bien taillée. Il occupe pratiquement toute la moitié droite de la photographie. Il domine l'image, il est monumental. Nous sommes à Trapani, en Sicile, en 1991. Derrière lui, un groupe d'hommes. À sa droite, c'est-à-dire pour nous à gauche de l'image, légèrement en retrait, un homme assis, bien plus jeune, aux cheveux assez longs et bouclés. Son visage est de profil. Il regarde au loin, lui aussi. Derrière cet homme, un autre homme, encore plus jeune, il nous fixe. Ces deux hommes, assis l'un derrière l'autre, ont les mains posées sur des rames. Leurs mains sont puissantes, les rames impressionnantes. Nous sommes à l'aube. Nous sommes à Trapani, en Sicile. Nous entrons plus avant dans l'image. Progressivement, nous découvrons une à une les personnalités de ces 11 hommes réunis sur cette embarcation. Ils sont tellement serrés. Leur groupe dessine un triangle compact qui se détache de l'étendue d'eau. Plusieurs générations sont ici réunies. Leurs visages et leurs regards expriment une tension. Nous sommes à l'aube. À Trapani, en Sicile. À l'arrière-plan, les mailles de filet viennent animer la coque de barque positionnée parallèlement à l'horizon et perpendiculairement à l'embarcation que nous venons d'évoquer. Celle de gauche comporte un mât vertical qui vient fendre le ciel. Nous y discernons également des hommes. Leurs attitudes, leurs positions diffèrent, mais elles expriment toutes l'attente. Nous sommes à l'aube, à Trapani, en Sicile. Nous sommes dans cette terre de tradition. Nous sommes dans ce moment qui précède la Matanza, mot qui se traduit par massacre. Une fois encore, ce geste qui remonte à l'Antiquité, ce geste pratiqué par les Grecs et les Phéniciens, ce geste encore utilisé au Moyen-Âge, va être commis. Ce geste, éternellement renouvelé lorsque les grands bancs de thon rouge migrent vers les mers chaudes pour se reproduire. Dans quelques instants, les hommes que nous avons décrits, les pêcheurs, les tonarotti, vont s'agglutiner sur le bord de leur longue embarcation, armés de harpons crochus en chantant des cantiques. Ils se pencheront en avant pour entrer dans une lutte, dans un corps à corps avec ces thons aux flancs argentés, dont certains peuvent peser plus de 200 kilos. Ces thons qui auront été pris au piège dans les filets des embarcations aperçues à l'horizon. Nous sommes ici dans l'instant d'avant, dans le silence d'avant. La tension extrême transparaît dans le regard de ces hommes à l'aube, à Trapani, en Sicile. À l'aube de ce geste ancestral et traditionnel, à l'aube de ce geste qui se transmet de génération en génération. À l'aube de cette pêche extraordinaire et dangereuse. La photographie est, là encore, accompagnée d'un texte de Sebastião Salgado. Il nous livre un éclairage détaillé sur ce qui va se produire dans l'instant d'après. Un éclairage détaillé sur la façon dont a évolué ce geste antique dans un monde où distances et frontières tendent à disparaître. Lisons. Nous sommes au sud de l'Italie, en Sicile. À bord d'un bateau qui pratique la pêche traditionnelle au thon, avec des nasses portées sur des kilomètres et des kilomètres. Des centaines de thons vont être ainsi capturés. Mais contrairement à la pêche industrielle, seuls les poissons adultes seront sélectionnés. Ils vont être pendus à des crochets, un à un, et se vider de leur sang, ce qui explique la blancheur de leur chair. Destinés au marché japonais, ces thons seront découpés sur place par les coupeurs de thons nippons que l'on aperçoit en arrière-plan, puis vendus très cher sur le marché de Tokyo. Cette méthode traditionnelle de pêche au thon en Méditerranée est aujourd'hui en voie de disparition. Mais ici, ce qui nous captive, son sujet, ce sont ces hommes de toutes les générations, qui s'inscrivent dans l'histoire de l'humanité, qui sont à l'aube de reproduire ce geste ancestral. Leur tension est extrême. La qualité de la photographie nous fait entrer dans leur regard. Elle nous fait partager leur rapport à la mer, à la fois nourricière et périlleuse. Un peu plus loin, encore une scène de pêche. L'esprit est tout autre. Nous sommes cette fois transportés en Indonésie, en Papouasie occidentale, aux confins d'Irian Jaya, en 2010. Des femmes asmates, sur des rondins de bois évidés, parcourent les rivières et pêchent des crevettes. Là-bas, les rivières sont une manne et regorgent de poissons, homards, crabes, dauphins d'eau douce, serpents de mer et crocodiles. L'une des femmes est debout dans l'eau. La tension extrême qui se dessine dans les muscles de son dos nous en dit long sur le poids du filet qu'elle sort de l'eau. Toutes les femmes la regardent, certaines debout, d'autres assises, dans les rondins de bois alignés sur la rivière, toutes captivées par ce moment, par cette manne qui sort de l'onde. Un seul enfant dans cette scène. Il fixe le photographe. Il nous prend à témoin, nous spectateurs. Là encore, plusieurs générations participent à ce geste ancestral, au cœur d'une jungle luxuriante. Dans cette région, certaines tribus continuent de vivre à l'abri du monde. Et le photographe nous invite dans leur intimité. Nous partageons avec ces femmes cet instant éternellement renouvelé dans l'histoire de ce peuple, cet instant qui devient éternité. C'est sans doute le moment d'évoquer la façon dont Sebastião Salgado voyage et travaille. Il dit « Je prends longtemps pour faire mes photos. » Effectivement, ces 42 photos, ces 42/1/250 de seconde ici exposées, sont le fruit d'un travail acharné que l'artiste poursuit jusqu'à présent. Et il a 78 ans. Pour faire ses photos, Sebastião Salgado conceptualise beaucoup avec sa femme Lélia. Une équipe le soutient dans la préparation de ses voyages. Elle peut prendre 6 à 8 mois. Il faut entrer en contact avec le pays, obtenir des autorisations. Sur place, il se fait accompagner de guides, d'un piroguier, d'un capitaine de brousse qui sait pêcher, chasser, installer les campements, d'un anthropologue, d'un traducteur. Il passe beaucoup de temps dans les communautés. Il dit lui-même « J'ai fait de nombreuses recherches et j'ai découvert que 48,6% de la planète était comme au premier jour de la Genèse. Presque la moitié. Je suis allé dans les déserts les plus chauds, dans les terres les plus froides. J'ai parcouru la Terre, mais le plus grand voyage que j'ai fait, c'est à l'intérieur de moi-même. » Et sa personnalité s'exprime complètement dans son art. Dans une autre interview, il raconte « le photographe, il est tout seul. Quand il intervient avec ses nuages et ses lumières de son enfance. Il intervient avec son père, sa mère. Il intervient avec son idéologie. Cette fraction de seconde, on aligne tout ça, on aligne l'information qu'on a besoin de donner, toute l'histoire qui se passe. Et vous savez, c'est tellement magique, tellement de pouvoir dans la photo. On sent que l'image va se former et dans la seconde, il faut qu'on aligne la lumière, la composition. Il faut qu'on aligne les plans, qu'on ait les proportions. Si on n'a pas toutes les règles d'or de la composition, il faut qu'elle soit présente. Pour réaliser une bonne image photo, il faut qu'il y ait un concept d'excellence sur toutes les variables qui vont composer l'œuvre. Il ajoute encore, c'est un peu le miroir de la société. Elle apporte en plus l'émotion de toute l'histoire du photographe. Elle représente le moment historique qu'on a vécu. Cette déambulation nous a fait voyager du Bangladesh à l'Amazonie, de la Sicile à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous n'avons pu évoquer le Rajasthan, l'Éthiopie, la Pologne, le Soudan ou encore la Sibérie. J'espère cependant vous avoir donné l'envie de connaître plus avant ce photographe humaniste, Sebastião Salgado, et son art. Son art qui est pour lui plus qu'une passion. La photographie, c'est ma forme de vie, dit-il. Je vis la photographie, je vis, je pense, je voyage, tout avec la photographie. Je vous invite vivement à aller voir cette exposition qui n'est pas seulement une expérience visuelle, mais qui, par l'architecture de l'édifice qui la reçoit, nous transporte en Amazonie, dans la fraîcheur de ces bambous guadois, exploités avec rigueur, respect et dans une maîtrise inégalée par Simone Vallès. Une flânerie où les sons de François-Bernard Mache nous envoûtent et nous entraînent plus loin dans la découverte de cet élément vital qu'est l'eau, dans la découverte de sa beauté, de sa fragilité, de la nécessité de participer à sa sauvegarde, à la sauvegarde de cette ressource naturelle, souvent invisible. Audrey Azoulay, directrice mondiale de l'UNESCO, nous met en garde et annonce que la crise hydrique atteindra 50% de la population mondiale en 2050, avec des conséquences écologiques, sanitaires mais aussi sociétales majeures. Comme je l'ai dit plus avant, cette exposition destinée à voyager dans le monde, dans ce pavillon, véritable ode à la fragilité de l'eau, est un manifeste pour la planète. Je recite ici les mots du photographe Sebastião Salgado. C'est un petit grain de sable qui, j'espère, contribuera à la conscientisation des gens vis-à-vis de l'eau sur Terre. J'ajouterai enfin que si cet été, vos pas ne vous conduisent pas à la Défense, vous pourrez très prochainement découvrir le recueil intitulé « L'Amazonie » de Sebastião Salgado, un recueil en relief réalisé à l'intention des non-voyants, actuellement en cours d'élaboration avec la Fondation Visio et l'éditeur Tachène, un livre qui vous donnera à toucher et à comprendre la forme de la forêt, la forme des rivières, la forme des arbres de l'Amazonie. Je reprends ici les termes de Sebastião Salgado lui-même. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation du mois de juin 2022 avec l'association Un regard pour toi qui soutient les déficients visuels. Pour accompagner notre visite, j'ai choisi la musique intitulée Chaman de Migra qui combine sons électroniques d'influence organique, rythme d'Amérique latine et influence multiculturelle. Il s'agit ici d'un extrait de l'album Modern Roots, Racines modernes.